Ici Patrick Marcellet. Dans la deuxième saison de mon balado Relève-toi, je reçois des personnalités d'ici qui ont su se relever après de difficiles épreuves.
Cette semaine, Patrick Marcellet reçoit Geneviève Rioux.
Il y a tellement eu plus d'hommes qui m'ont tendu la main après ça que d'hommes qui m'ont fait mal dans ma vie. Je veux pas laisser les hommes qui blessent gagner. C'est pas supposé d'arriver une fois, encore moins deux fois. Ouais. Qui garantit que ça arrivera pas une troisième fois?
Relève-toi, disponible dans la section balado du site web de votre station Cogeco Média.
Présenté par les Centres de prévention du suicide du Québec.
C'est 23.
Ça tient la route, le balado pour les vrais amateurs de voitures. Voici votre animateur, Benoît Charrette.
Salut tout le monde, bienvenue à l'émission Ça tient la route, qui est là déjà depuis à peu près, quelques émissions.
Notre 32e aujourd'hui.
32e. Alain tient le compte,
mesdames et messieurs.
Alain Mécanas, salut Alain.
Bonjour Benoît.
Alors aujourd'hui, évidemment, comme à l'habitude, on va commencer avec nos actus. Il y a des actualités assez intéressantes, toujours dans le monde merveilleux de l'automobile, avec quelques nouvelles d'associations, des nouvelles de chez BMW. On va même parler de Joe Biden tout à l'heure.
Ah ben.
Ouais, moi vous expliquer pourquoi. On a Serre Routier. Alain, tu vas nous parler du Niro EV.
Ouais. Ça faisait longtemps que j'avais pas revisité ce véhicule électrique. La version électrique du Niro, là, ce qui est offert en différentes versions. Un des bons modèles électriques à considérer si vous magasinez dans ce créneau-là.
Absolument, je l'ai essayé, je pourrais ajouter mon petit grain de sel à tout ça, un modèle que j'ai bien aimé pour son confort, entre autres, conduite intéressante. Moi, je vais parler d'un modèle 2022, Genesis G70, qui est joli, remise à niveau. C'est un modèle qui est pas vieux, 2019, là, le premier modèle, donc ça vient à peine d'arriver. Mais on le sait, là, ça va vite dans ce créneau-là. Il y a eu beaucoup de changements récemment et on uniformise, je peux-tu dire ça de même? On harmonise la gamme de produits chez Genesis. Donc, on lui a donné un style un peu plus conforme à ce qu'on voit pour la G80 qui a changé cette année, la GV80 qui est arrivée aussi et le futur GV70 qui s'en vient un petit peu plus tard cette année. Donc, c'est la mode de j'ai l'air de mon petit frère qui a l'air de ma petite sœur. Bon,
c'est vrai qu'ils se ressemblent tous de l'avant.
Moi, j'avoue que j'ai un certain problème avec ça parce que je comprends l'idée de base qu'on va reconnaître un produit, que ce soit Mercedes, BMW, Genesis, Toyota ou autre. Sauf que à un moment donné, un problème en attire un autre dans la mesure où on ne sait plus quel modèle on a devant soi. Tu dis, c'est un 70, un 80? Non. Puis là, même Genesis a sorti cette semaine des petites retouches pour la G90. Donc là, ça veut dire que à part le format, on sera à peu près incapable de dire à qui on a affaire exactement.
Ouais.
Mais cela dit, c'est un véhicule fort intéressant. Et comme invité, on fait scène 1, prise 2. On a eu Louis-Martin Janard la semaine passée, mais on n'a pas eu l'impression de faire complètement le tour du sujet quand on a fini l'entrevue, parce que d'ailleurs, et merci, on a eu beaucoup de réactions. J'ai eu beaucoup de courriels. On a publié un texte après qui a très bien marché sur Internet. Donc, on va faire la phase 2 de cette interview-là en parlant de formation, en parlant aussi de recrutement, parce que oui, il y a un problème, il y a une pénurie, mais on fait quoi? Est-ce que l'industrie fait quelque chose? Donc, on va parler un peu plus de ça avec Louis-Martin tantôt. Donc, on parlait d'actu, ben on va y aller de ce pas, Alain. Parle-nous de Stellantis, toi, qui va travailler avec Foxconn.
Ben oui, ben deux noms. Ben Stellantis, on commence à les connaître. Les gens qui touchent à l'électronique, à la mobilité, les connaissent un peu aussi. Deux entreprises qui vont créer une co-entreprise, en fait, pour développer des véhicules connectés, ou en tout cas des services connectés pour les véhicules de prochaine génération. Là, on tombe dans les phrases toutes faites d'avance par les relationnistes, mais c'est un peu ça que ça veut dire. Donc, le groupe qui appartient désormais les marques Chrysler, Dodge et Ram va former une co-entreprise avec le groupe taïwanais spécialisé dans la production des systèmes connectés qu'on trouvera à bord donc dans les prochaines années, mais ça s'en vient quand même assez vite. Foxconn, pour la petite histoire, c'est l'entreprise qui assemble plusieurs des principaux produits d'Apple, dont le iPhone. Ce qui fait que c'est quand même une très bonne carte de visite, on s'entend. Des gens qui sont capables de produire des produits, c'est un peu redondant, mais de le faire avec une très grande minutie, une très grande précision. Évidemment, on a hâte de voir cette nouvelle co-entreprise automobile qui va s'appeler Mobile Drive, héritera d'un peu de l'expertise que Foxconn a acquise en se frottant à Apple. Les accessoires qui seront produits par Mobile Drive comprennent des cadrans du tableau de bord, des systèmes d'infodivertissement, les fameux radios d'auto éclatés. On peut plus parler de radio, il y a tellement...
La radio, c'est comme le parler d'un téléphone cellulaire. La dernière chose que font beaucoup de gens avec, c'est de téléphoner.
Ouais, ben exactement. Il va y avoir aussi des outils de connexion 5G, des applications d'intelligence artificielle, pour ce que ça veut dire, et des services infonuagiques hébergés sur des serveurs, sur Internet, pour offrir...
Mais là, si je comprends bien ce que tu es en train de me dire, est-ce que Foxconn va remplacer un Microsoft, un Google ou un Apple?
Exactement. C'est ça qu'il va falloir voir, parce que tout ça ne signifie pas que la plateforme logicielle va être spécifiquement justement une ou l'autre, ou même développée à l'interne. On sait que tous les géants techno, en fait, courent après les constructeurs. Il y a Amazon, clair. Google, Microsoft. Ouais. Apple reste un peu discret dans le coin. Est-ce qu'on peut faire un lien entre Apple, Foxconn et ensuite Stellantis? Écoute, moi, je n'irai pas jusque-là, mais... Il y a déjà des atomes crochus.
Parce que là, on travaille de plus en plus à l'intégration là, verticale de A à Z. Tu as des systèmes Alexa qui commencent à être intégrés. Donc, on peut parler à l'auto qui va parler à la maison. La maison peut parler à l'auto qui va parler à Alexa qui va vous donner des conseils. Tous ces systèmes-là sont de plus en plus sophistiqués.
Oui, puis on essaie de vous enfermer dans un écosystème.
Voilà.
Ford a embarqué Alexa la semaine dernière dans sa mise à niveau de son système Sync. Volvo, entre autres, et d'autres fabricants sont embarqués sur la plateforme de Google beaucoup. Ça brasse pas mal.
Ben, en fait, c'est intéressant et un peu à la fois, je veux pas dire épeurant, j'irai pas jusque-là, sauf que il est clair que des compagnies comme Microsoft ou Google ont dépensé des montants astronomiques en recherche et développement pour ces systèmes-là.
Ouais.
Et que c'est intéressant pour une compagnie automobile de dire, bon, ben regarde, moi, je vais intégrer ton affaire, on a un forfait. Au lieu de ça, le plan B, c'est de dire, bon, je vais faire ma propre recherche et mon développement et plusieurs milliards de dollars plus tard. Et là, on s'entend bien que si toutes ces compagnies-là partent de zéro...
Ben, pas juste ça, c'est que souvent, les grands fabricants, tu sais, Ford le fait depuis longtemps avec ses commandes vocales, ils vont chercher des équipementiers qui ne sont pas spécialisés en techno nécessairement, et ça donne des produits qui ne sont pas très bons. La commande vocale dans les véhicules Ford, ça n'a jamais été fort.
Non. Puis on voit que ça s'améliore quand il y a des professionnels qui rentrent dans le jeu.
Il y a des rumeurs depuis plusieurs mois qu'Apple veut lancer sa propre voiture. Peut-être que c'était Stellantis place ses billes.
Okay.
Pour être le fabricant, il y a des possibilités.
Peut-être, okay.
Mais c'est sûr qu'on va reparler de cette chose-là, parce que c'est certain que ces compagnies techno-là embarquent dans l'automobile.
Fait que c'est une association qui est importante, là. Il faut le noter, là.
Oui, Stellantis, en partant, ça va devenir, ou ce n'est pas déjà, un très grand groupe.
Ben, c'est le quatrième groupe automobile, là.
Ils vont s'installer, ils vont s'absorber l'un l'autre, puis après ça, on va avoir une machine qui va bien fonctionner. Donc, avec Foxconn, ça va être intéressant de voir la suite. Ce qu'il faut retenir, là, c'est les véhicules connectés, ça s'en vient. Il va y avoir des connexions cellulaires dans la plupart des véhicules. On va acheter un véhicule, on va avoir 4 ans de connectivité inclus dans le prix d'achat. Donc, on va toujours avoir un accès à Internet dans la voiture. C'est une question de, ça a déjà commencé, en fait, mais c'est une question d'années avant que ce soit généralisé.
Parfait. Autre nouvelle, BMW fait le ménage dans ses motorisations.
Ben oui, en ce moment, là, si on ouvre le catalogue du grand groupe BMW, on trouve des moteurs à 3, 4, 6, 8 et 12 cylindres.
Exact.
C'est beaucoup. C'est beaucoup de cylindres en partant, mais c'est aussi beaucoup de variantes.
Ouais,
beaucoup
puis là, t'as
de
des
volumes,
diesel, t'as des moteurs essence, t'as des hybrides branchables, des électriques, là. Écoute, il y en a vraiment pour tous les goûts.
Exactement.
Là.
Puis, d'ici 2030, et là, à force d'en parler, ça arrive, 2030, là. la moitié des ventes de BMW devraient normalement se faire avec des véhicules à moteur électrique.
OK.
Fait que ça va faire un gros vide, ou en tout cas, ça va avoir beaucoup de stock sur les tablettes là, de moteurs inutilisés. Alors, le groupe allemand qui tenait son assemblée générale cette semaine a annoncé, en tout cas, sa direction a annoncé qu'elle va couper de moitié la variété de mécanique qu'elle produit et qu'elle offre, en fait, d'ici 2025, donc d'ici 3 ans, ou 4 ans, si vous voulez, pour simplifier, justement, ses opérations, ses coûts, tout le reste. Les premières cylindrées à disparaître sont celles qui animent, pour le moment, les Mini, puisque la marque je viens de me rappeler, c'est une marque anglaise et allemande, donc une marque britannico-allemande.
Oui.
Sera exclusivement électrique à partir de 2025, donc il n'y aura plus de, tu sais, les 3 cylindres, 4 cylindres, c'est fini. Du côté de BMW, ben, les options diesel seront possiblement les premières à disparaître à mesure que les 13 véhicules annoncés d'ici 2023 vont entrer en marché. 13 nouveaux véhicules électriques en 2023 pour BMW, c'est quand même beaucoup.
Ouais.
Ça va tasser les vieux modèles. Même Rolls-Royce, va falloir qu'ils simplifient un peu leur offre. Le groupe allemand prévoit que tous ces moteurs seront au moins en partie électrifiés avant la fin de la décennie, ce qui signifie qu'on aura des Rolls-Royce branchables. Alors, tu sais, ton chauffeur devra brancher ta voiture.
Voilà, absolument. Quand t'arrives au manoir. Ça en fait partie de ses tâches.
Exactement. C'est une nouvelle spécialité, en tout cas. Bref, bonne nouvelle pour, évidemment, les promoteurs de l'électrification. C'est un peu moins réjouissant pour les employés de BMW assignés aux usines de production parce que le groupe a dû couper 5000 postes de ce côté-là.
Ouais.
En revanche, il y en a créé 4000 nouveaux dans les moteurs d'avenir, donc c'est une transition.
Et il faut être clair, ce modèle d'affaires-là va se répéter chez beaucoup de constructeurs.
Exactement.
Je vais t'en glisser un mot tantôt. Lamborghini a annoncé cette semaine qu'on allait électrifier une grande partie de la gamme. Quand Lamborghini est rendu à dire qu'il va électrifier une partie de sa gamme, là, c'est parce que tout le monde y pense. Là. Voilà. Je vais y revenir parce qu'avant, je voulais te parler de Joe Biden qui est en visite cette semaine du côté de Détroit, en fait du côté de Dearborn.
Oui, au Michigan.
Parce qu'on a annoncé, en fait, on va annoncer.
C'est Ford, ça, Dearborn.
Ford, c'est Dearborn. C'est Dearborn, c'est Ford City. Là. Mm-hmm. Henry lui-même s'est installé là. Et c'est depuis toujours là où on produit le plus de véhicules Ford. Et on a reconverti une usine, La Rouge, la fameuse usine La Rouge. On a investi 700 millions du côté de Ford pour remettre l'usine à niveau pour fabriquer le nouveau F-150 électrique.
Ah, c'est
le
là que
Lightning,
ça se passe.
C'est là que ça se passe. Et Joe Biden a été visiter l'usine et va annoncer un plan d'électrification des transports de 174 milliards de dollars.
Les millions, c'est rendu négligeable maintenant.
C'est des millions. Va te faire un chèque pour 174 millions, puis ils retournent chez vous. En fait, c'est l'agence Reuters qui avait en premier annoncé ça. Il va y avoir des subventions gouvernementales pour des nouvelles installations de production de batteries, entre autres. On veut produire des batteries plus du côté des États-Unis. Joe Biden est assez clair qu'on veut arrêter de dépendre toujours de la Chine, entre autres, pour la production de ces fameuses batteries-là. Il va y avoir 100 milliards de dollars qui vont être en remise aux consommateurs, c'est-à-dire que le programme fédéral, 7 500 $. Ouais. Et là, il a spécifié que ce 7 500 $-là va s'appliquer aux véhicules électriques de tout prix. Donc, peu importe le prix, mais va disparaître progressivement après que les fabricants ont vendu 200 000 véhicules électriques.
Ah bon?
Donc, ça va être au prorata de ce qui est vendu. Bon, ça, c'est pas voté encore, je le dis. C'est encore une proposition. Ça va être à voter du côté de Washington. Et on va également investir de l'argent pour transport en commun, pour des. On veut installer, entre autres, il y a 15 milliards de dollars qui vont être consacrés à la construction de 500 000 stations de recharge de véhicules électriques d'ici 2030, notamment dans des immeubles d'habitation et des stationnements publics. On veut pas juste des bornes de recharge le long des autoroutes. On en a déjà quand même un bon montant aux États-Unis, mais on veut amener ça chez vous, dans la cour des gens, les gens qui restent dans des condominiums, des appartements. Ouais. Les stationnements publics vont être plus accessibles, donc on veut améliorer de ce côté-là. Il va y avoir aussi 45 milliards de dollars qui vont être consacrés à l'électrification d'un nombre important d'autobus scolaires et de transports en commun. On veut également financer le passage de la flotte fédérale à un plus grand nombre de véhicules électriques. On a encore beaucoup de suburban noirs, n'est-ce pas?
Oui.
Entre autres choses. Et la Maison-Blanche va encourager la création de nouvelles installations de production de batteries qui sont essentielles à la réalisation de ce projet-là. Évidemment, vous aurez compris que les Républicains sont un peu contre l'idée. Mais ça, quand t'es dans l'opposition, t'es toujours contre.
Il y a jusqu'en 2022 pour faire passer tout
ben,
ça.
Ben voilà. Alors, donc, c'est un projet qui va être présenté aux gens de Ford. Ça se fait aujourd'hui. Donc, au moment où on se parle, on n'a pas encore toute l'information, mais c'est en gros le projet qui va être lancé. Puis je parlais tantôt d'électrification du côté de Lamborghini. Ben ça, c'est un autre projet. Ça s'est fait du côté de Sant'Agata Bolognese, le siège social de Lamborghini.
Voilà.
On vient de donner comme objectif de réduire les émissions de carbone actuelles, donc 2021, de 50% d'ici 2025. Ça, c'est dans 4 ans à peine.
Ouais.
Donc, ça s'appelle... OK, ils sont où tes modèles électriques, là? Alors, c'est M. Winkelmann, le PDG de Lamborghini, qui a fait l'annonce et qui dit que on va avoir beaucoup de modèles électriques dans les 10 prochaines années. Il a été par étapes, c'est-à-dire que Lamborghini va au départ consacrer ses énergies à des modèles hybrides et hybrides branchables, d'ici à 2025. Puis à partir de 2025 jusqu'en 2030, là, on va se lancer dans des projets 100% électriques. Il n'a pas encore précisé quelle technologie hybride était prévue dans quel modèle, mais ce qu'on peut comprendre, c'est qu'il va y avoir une quatrième, c'est-à-dire une étape où on va tomber dans des modèles purement électriques, donc qui va être comme une nouvelle branche à Lamborghini. On veut pas complètement abandonner les moteurs à essence, mais vous comprendrez que si on veut diminuer de 50%,
il faut agir vite.
faut agir assez rapidement. Donc, on a promis que ça ne changerait rien à la conduite des modèles Lamborghini, qu'on veut toujours montrer le côté audacieux, déjanté et un peu ludique de tout ce qui s'appelle produit Lamborghini, mais qu'il faudra procéder effectivement à des changements majeurs. Alors, Lamborghini est rendu là. Mm-hmm. On avait fait quelques essais avec le modèle Sian en 2019, qui est un modèle hybride. Mm-hmm. Et on dit que cette technologie-là va être la première à servir de base, soit pour un modèle Huracan, parce qu'en termes de format, on est assez proche, ou un modèle Aventador, mais qu'on va amener tout ça d'ici à 2024, donc c'est dans pas beaucoup de temps. Alors voilà, rapido, ça fait le tour des actualités. On va prendre une première pause rapide et on revient avec notre premier invité, notre invité de la semaine, Louis-Martin Janard.
Ici Patrick Marcellet. Dans la deuxième saison de mon balado Relève-toi, je reçois des personnalités d'ici qui ont su se relever après de difficiles épreuves.
Cette semaine, Patrick Marcellet reçoit Geneviève Rioux.
Il y a tellement eu plus d'hommes qui m'ont tendu la main après ça que d'hommes qui m'ont fait mal dans ma vie. Je veux pas laisser les hommes qui blessent gagner. C'est pas supposé d'arriver une fois, encore moins deux fois. Ouais. Qui garantit que ça arrivera pas une troisième fois?
Relève-toi, disponible dans la section balado du site web de votre station Cogeco Média. Présenté par les Centres de prévention du suicide du Québec.
Vous écoutez Ça tient la route avec Benoît Charrette.
Avant de parler à notre invité, je vous rappelle que vous pouvez écouter Ça tient la route sur différentes plateformes, Apple, Google, Spotify, ou vous allez dans la section balado du 98.5 à balado avec un S, balado, et vous allez trouver Ça tient la route là. Si vous avez des messages, et là je vais me mouiller un peu.
Ah oui?
J'ai réglé un cas cette semaine qui m'a été envoyé par l'équipe de Paul Arcan un matin. Une madame qui a eu des problèmes avec une voiture. Je donnerai pas les détails en onde. Mais si vous avez des problèmes, là, pas des problèmes incurables, là, pas des problèmes que vous avez été en cours puis vous pensez qu'on va faire mieux que ça.
Ce genre de problème-là.
Mais si vous avez des problèmes avec votre auto puis que vous avez pas trop de réponses des concessionnaires, là, envoyez-nous un petit mot. On est assez bon là-dedans, puis ça permet souvent de soulager un problème qui est assez souvent insoluble. Mm-hmm. Alors, envoyez-nous ça. Vous pouvez le faire à balado, balado avec un S, à 98.5fm.ca. Vous pouvez envoyer ça là. Ou envoyer cela via annuelauto.ca. Vous pouvez nous envoyer sur le site de l'annuel de l'automobile. Donc, vous pouvez faire ça et on va, dans les prochaines semaines, commencer à regarder ça avec vous. Alors voilà, le message est passé et notre prochain invité, on l'a tellement aimé qu'on l'a réinvité. c'est Louis-Martin Janard, en fait. Il était avec nous la semaine dernière. On a parlé de pénurie de main-d'œuvre dans le monde automobile. Mm-hmm. Écoutez, on a créé les mois littéralement sur Internet, sur Facebook. J'ai republié un article que Louis-Martin avait écrit sur justement les salaires que l'on juge dans bien des cas insatisfaisants. Et je savais pas qu'il y avait autant de mécaniciens, de techniciens au Québec, mais ça a répondu. Écoutez, j'ai eu genre 300 ou 400 commentaires, plus d'une centaine de partages. Ça a roulé là 2-3 jours solides. Donc on s'est dit, ok, je pense qu'on a touché un point qui intéresse beaucoup les gens. Et on a réinvité Louis-Martin, mais cette fois-ci pour parler un peu de ce qu'on peut faire, parce que
mode solution.
Voilà, en mode solution. Donc Louis-Martin Janard, je vous rappelle, c'est lui qui a fondé Canada Motor Jobs, c'est le cofondateur de Canada Motor Jobs, qui est encore avec nous cette semaine. Salut Louis-Martin.
Bonjour à vous deux.
Ben merci encore d'être là cette semaine. Et là, on voulait parler peut-être de solutions, ou en tout cas de pistes de solutions à cette pénurie dont on a parlé la semaine dernière. Et il y a des organismes qui existent, qui font la formation justement de tout ce qui s'appelle métier de l'automobile. On parle des comités paritaires automobiles qui existent depuis déjà longtemps. C'est quoi les parités les comités paritaires automobiles? Comment j'ai
juste,
dit ça?
Juste le prononcer, c'est une bonne question.
Les comités paritaires automobiles sont là depuis longtemps. Je sais que ça ne fait pas l'unanimité au sein des gens de l'industrie, mais je pense que ces gens-là ont eu quand même une utilité importante dans les 30 dernières années, là.
Ben en effet, puis c'est un bon point de parler des comités paritaires parce que bon, j'imagine dans les commentaires que tu as reçus et que j'ai reçus aussi, les mécaniciens, apprentis mécaniciens, les gens de la carrosserie, les gens des pièces, je veux pas oublier personne là-dedans, tous ouais. Les métiers qui sont assujettis, soit classifiés ou qualifiés par les comités paritaires, la plupart de ces travailleurs-là, leur réaction, c'est ben les CPA, ça devrait être aboli, on devrait enlever ça, on devrait débarquer ça, c'est désuet. Et ça m'a fait penser au monologue d'Yvon Deschamps pour les plus vieux, puis ça m'a donné une idée, c'est les CPA, qu'est-ce que ça donne?
ah oui.
Les gens, présentement, ont l'impression qu'il n'y a plus de valeur ajoutée pour eux d'être assujettis par les comités paritaires. Maintenant.
Bon. C'est ça, mais dans un premier temps, parce que les gens qui écoutent savent pas nécessairement ce que font les comités paritaires automobiles, rappelle-nous d'abord le but des comités paritaires, pourquoi ça a été fondé et qu'est-ce que ça fait au niveau des métiers là, en ce moment?
Bon, si on prend l'exemple du comité paritaire de Montréal, lui a été fondé en 1936, donc c'est pas d'hier.
Non.
Et c'est un organisme qui est où on regroupe la direction, le conseil d'administration, et c'est autant d'employeurs représentés par différents organismes et autant de travailleurs qui, eux, sont représentés par les grandes centrales syndicales. On dit que c'est paritaire parce que c'est 50-50. Donc, les décisions qui sont prises au conseil d'administration sont prises 50-50. Et l'objectif étant d'un peu d'organiser les conditions de travail, donc les heures supplémentaires, les jours fériés, les congés annuels payés, les absences, les taux horaires minimaux à payer, la classification et la qualification professionnelle. C'était là les grands enjeux, les grandes lignes directrices du décret qui, si on veut, est un peu une extension là des conditions de travail
exact.
Du gouvernement.
Puis là, ça a été créé à une époque où, si on recule à Montréal en 1936, les travailleurs avaient peu de droits, les syndicats existaient pas ou peu, il n'y en avait pas énormément, et ce comité-là a servi à donner des conditions de travail respectables aux travailleurs qui étaient dans les métiers automobiles. Et là, on remet en question aujourd'hui, parce que bon, les conditions de travail se sont améliorées et on dit que bon, ça donne quoi d'amener une contribution à cet organisme-là quand on ne voit plus tellement son utilité. C'est un peu ça qu'on remet en question, là.
C'est un peu ça que les mécaniciens remettent en question. Puis il y a aussi les employeurs qui, je crois, eux aussi remettent en question parce que pour eux, ça devient un peu une lourdeur administrative. Ouais. Là, des fois, il y a des dédoublements là, de services. Il y a aussi ce qui est arrivé dans les dernières années, c'est qu'il y a quand même des certains vides dans le décret, comme exemple au niveau de la santé sécurité au travail. Donc la CNESST a pris une certaine place, autoprévention, le comité sectoriel de main-d'œuvre automobile qui et d'autres organismes qui sont là pour protéger les travailleurs, mais aussi pour organiser de la formation, la valorisation des DEP, des diplômes d'études professionnelles.
Okay.
Pour une partie des travailleurs, les gens qui sont assujettis par les comités paritaires, il y en a pour qui ils trouvent que ben c'est désuet, ça pue sa place. Mais pour la plupart des travailleurs, eux, ce qu'ils regardent, puis ce qui les déçoit dans ce qui se passe dans les CPA, c'est surtout la charte des salaires minimaux. C'est ça qui les agace au plus haut point.
Ouais, ben, c'était, en fait, dans l'article que t'as écrit, qu'on a publié la semaine dernière, c'était probablement le point qui a amené le plus d'émotions à travers les commentaires qu'on a eus. Les gens disent, tu vas aller travailler comme préposé dans un CHSLD, les nouveaux sont à 26$ de l'heure, puis un mécanicien est encore à 15,75$ de l'heure quand il commence, là. Donc, les gens disent, ça n'a pas de bon sens pour la formation qu'on a, parce que bon, c'est quand même un DEP. Il y a des études à faire là-dedans, puis c'est de plus en plus complexe, là. Le mécanicien, comme on le définissait il y a 25 ans, c'est plus le mécanicien d'aujourd'hui, c'est beaucoup plus un technicien qu'on a aujourd'hui derrière sa voiture qu'un mécanicien, là.
Exact. Mais avant d'aller dans la formation, je vais juste terminer sur les CPA.
Ouais.
Je veux que ça soit bien clair dans la tête des gens puis des intervenants, parce que j'ai déjà travaillé là, et puis je tiens à dire que moi, présentement, je trouve que les CPA, je suis un ardent défenseur des comités paritaires, je pense que c'est encore sa place, mais ça aurait besoin d'être un petit peu revampé, puis
moderniser,
s'ajuster un peu, puis aller chercher des valeurs ajoutées pour les travailleurs, puis se concentrer sur la qualification, la formation. Présentement, là, si on parle sur le territoire de Montréal, il y a plus d'apprentis mécaniciens que de compagnons mécaniciens, des gens là, qui sont qualifiés.
Des gens avec des certifications qui peuvent opérer seuls et qui ont le métier.
Mais la raison, c'est pas que les apprentis sont pas bons, là. Pas du tout. C'est qu'eux, ils ne voient pas, ils se disent, ben, qu'est-ce que ça donne d'aller passer l'examen? Mon boss me paye plus que le décret.
Oui, exactement.
Alors, voyez-vous, c'est là où les gens ne trouvent pas qu'il y a une valeur ajoutée à aller passer l'examen de qualification.
Alors, non, puis on le sait, là, le monde automobile change à une vitesse grand V depuis quelques années, là, parce que là, il va falloir mettre sur pied des formations pour tout ce qui s'appelle véhicule électrique, parce que ça va commencer à rentrer en quantité industrielle un peu partout, et on le sait que c'est complètement autre chose, là. On n'est même plus dans un moteur à explosion, on est dans des batteries, là. Alors, on change la dynamique complètement, là.
Exactement. Et puis ça, les gens réalisent pas, mais exemple, un super bonne orientation des comités paritaires, c'est qu'ils ont développé un programme qui s'appelle programme compétences VE pour véhicules électriques.
Ouais.
Et ça, c'est chapeauté par l'ensemble des comités paritaires là, avec le CPCPA et aussi le comité sectoriel de l'industrie automobile.
Okay.
Et ça, c'est un programme qui est ouvert à tout, apprentis, mécaniciens, peu importe. Là, c'est ouvert à tout le monde à travers la province du Québec. Même si c'est administré par les comités paritaires, mais tout le monde a accès à ce programme-là. Et c'est une mise à jour vers les véhicules électriques.
Okay.
Et c'est super bien fait. Ça a été développé par Yves Rassette, qui est probablement, c'est une sommité dans le véhicule électrique.
Ouais, qui est dans ce modèle-là. Oui, il est très connu, Yves, là.
Alors, il est très connu, très compétent. Et puis, ils ont développé des outils en ligne pour faire, un pré-test, une auto-évaluation, tout ça, pour savoir où on se situe. Ils ont obtenu des subventions des gouvernements pour monter ces programmes-là. Alors, moi, j'encourage fortement les mécaniciens ou les carrossiers ou tous ces gens-là ou qui ça touche le véhicule électrique d'aller vers ce programme-là. Puis, je reviens là-dessus, allez passer vos examens de qualification, allez chercher vos cartes de compagnon et démontrer votre valeur auprès des employeurs. Puis c'est comme ça qu'on va améliorer un peu le statut.
Bon, Louis-Martin Janard, on a commencé, on en parle, mais la formation, c'est probablement le nerf de la guerre. Moi, j'avais eu une conversation avec des gens du CPA il y a quelques années, CPA Montréal, entre autres, qui me disaient que c'est pas toujours facile de rester à jour dans les formations qu'on donne parce que ça va tellement vite qu'à chaque fois qu'on doit mettre un programme sur pied, le jour où ce programme-là est finalement donné, l'industrie est déjà rendue à l'autre étape. Comment on peut faire pour harmoniser, si on veut, ce qui se donne ou ce qui arrive de l'industrie versus ce qu'on donne aux gens qui prennent les cours dans les différentes écoles?
Ben, en fait, je pense qu'il faut aussi mettre en perspective les attentes des employeurs quand un apprenti arrive qui a terminé un DEP de 1800 heures.
Ouais.
C'est quand même beaucoup de choses, mais c'est la base. Et c'est une base qui va permettre à ces gens-là de continuer à s'auto-former, si on veut, continuer à aller suivre des formations. Parce que si on parle encore une fois de véhicules électriques, ben l'électricité de base qui s'enseigne, dans les DEP, elle sera jamais désuète. Ça va toujours rester l'électricité, non. Ça change quoi.
Autrement dit, Louis-Martin, ce que tu nous dis, c'est que oui, les gens qui prennent la formation ont la base, mais c'est en partie la responsabilité de l'employeur de s'assurer que la formation demeure à jour et d'envoyer ses employés dans ces formations-là.
Oui, tout à fait, mais en même temps aussi, je pense que c'est aussi la responsabilité du travailleur d'insister pour aller suivre des cours. Parce que, je veux dire, les cours, ils t'appartiennent, ils te suivent dans ta carrière, tu changes d'emploi, ben les ouais. cours, ils restent, ta formation, ça reste avec toi, ça appartient pas à l'employeur. Donc, moi, je pense que le travailleur doit insister, et puis l'employeur va y gagner, parce que quand t'as un employé qui est capable de maîtriser une nouvelle technologie, t'es plus performant, tu fais plus de profit, et ainsi de suite.
Ouais, puis on peut aussi négocier des meilleurs salaires si on a une formation que pas tout le monde a, ou une expertise qui est pas nécessairement celle qu'on va trouver dans chaque employé qui applique pour un poste, là.
Tout à fait. C'est la base. Un employé qui applique, qui a un DEP, qui a des perfectionnements, c'est clair qu'il vaut plus que quelqu'un qui a appris, disons, sur, comme on dit dans le jargon, sur le tas, là, ou dans l'atelier. Il y a une cinquantaine de DEP reliés à l'industrie. Une cinquantaine de centres de formation à travers la province qui offrent différents DEP ou attestations d'études professionnelles en équipement motorisé.
Ouais, puis t'en as autant dans t'en as à travers les commissions scolaires, t'as même des centres de formation privés là qui existent oui. où vous allez avoir une formation entre guillemets accélérée là qui va aller quelquefois un petit peu plus vite. Mais puis c'est pas, on en parlait la semaine passée, on reviendra pas longtemps là-dessus, mais il y a une pénurie, il y a du monde en ce moment, il en manque partout, donc je pense que vous manquerez pas d'emploi si vous avez une formation dans un métier automobile.
Là. Ah non, c'est clairement là, c'est recherché, s'il y a des jeunes qui se cherchent un peu, qui savent pas, puis qui aiment l'industrie automobile, il y a beaucoup d'emplois, puis c'est des métiers qui sont hyper intéressants, qui sont rendus modernes, qui ont été développés. Maintenant, il faut les valoriser, les DEP. Il faut que les employeurs s'intéressent puis peut-être exigent que les nouveaux arrivants là dans l'industrie aient un DEP, les encourager à aller chercher une qualification, passer les cartes de compétences et puis
tout le monde va y gagner. On l'a vu dans le milieu de la santé, si on améliore les conditions de travail, ben les gens se pointent. Je pense que si on est capable de faire la même chose avec les métiers automobiles, de les valoriser, de mieux les encadrer et de donner des salaires dignes de ce nom, on va en avoir du monde là, c'est pas beaucoup
plus compliqué
que ça. Tout à fait,
je pense que la semaine passée là dans le cadre de l'entrevue, bon on a beaucoup martelé l'histoire des salaires tout ça, mais bon, les conditions de travail, c'est un ensemble. Il n'y a pas juste le salaire.
Ah non, mais non, c'est ça.
La différence. Là, je veux dire, t'auras beau gagner un bon salaire, mais si le garage est bordélique, puis...
Si tu travailles toutes les fins de semaine, t'as jamais de congé, puis bon...
Exactement. Tu fais crier après, c'est pas drôle. Bon, c'est un ensemble. Exact. Mais présentement, où le bas blesse présentement, c'est au niveau des salaires, puis c'est avec ça qu'on a de la difficulté à amener des jeunes dans les formations. Puis bon, on travaille tous là-dessus.
Ben, Louis-Martin Janard, un gros merci pour cette deuxième présence. Puis là, ce qu'on va faire, je sais que tu es en train de préparer un autre texte sur le CPA que ça donne, là. On va se faire un plaisir de partager ça sur le site de l'Annuel Auto. On va probablement avoir encore des bonnes réactions.
Parfait. Puis juste en terminant, si tu me permets, ben on a lancé l'application pour les chercheurs d'emploi disponible sur l'App Store pour Canada Motor Jobs, alors ceux qui veulent télécharger ça, c'est maintenant disponible, fonctionne très bien, donc
c'est un site super facile, beaucoup plus facile que le nouveau site d'Emploi Québec, hein? Bon, ben, un grand merci, Louis-Martin. On s'en parle bientôt. Salut.
Merci, ça me fait plaisir.
C'était Louis-Martin Janard qui cofondateur de Canada Motor Jobs qui nous parlait des CPA et des emplois dans l'automobile. Nous, on va quelques minutes en pause et on revient avec nos essais routiers.
Vous voulez plus de balado? Abonnez-vous à votre balado préféré sur Apple, Spotify ou Google.
Ici Patrick Marcellet. Dans la deuxième saison de mon balado Relève-toi, je reçois des personnalités d'ici qui ont su se relever après de difficiles épreuves.
Cette semaine, Patrick Marcellet reçoit Geneviève Rioux.
Il y a tellement eu plus d'hommes qui m'ont tendu la main après ça que d'hommes qui m'ont fait mal dans ma vie. Je veux pas laisser les hommes qui blessent gagner. C'est pas supposé d'arriver une fois, encore moins deux fois. Ouais. Qui garantit que ça arrivera pas une troisième fois?
Relève-toi, disponible dans la section balado du site web de votre station Cogeco Média.
Présenté par les Centres de prévention du suicide du Québec.
Vous écoutez Ça tient la route avec Benoît Charrette.
C'est déjà la dernière portion d'émission. Ça va toujours trop vite.
Ça va vite.
Ça va vite. Ouais. Alain, t'as roulé en électrique cette semaine.
Oui, monsieur.
Kia Niro.
Exactement.
Modèle dont on entend un petit peu moins parler.
Oui.
Mais que j'ai bien aimé. Alors, je te laisse te lancer là-dessus. J'ajouterai peut-être mon petit grain de sel en chemin.
Oui. Ben, écoute, si vous visitez un concessionnaire Kia ces jours-ci, premièrement, on va peut-être vous offrir une job, là, de ce que je comprends du segment précédent, c'est qu'on a besoin de monde. Mais on risque aussi de vous offrir trois versions du Niro, hein, parce qu'on le sait, il y a une version à moteur thermique de base, il y a une version hybride branchable, et il y a le Niro EV. Les prix varient, c'est ça qui est intéressant, il y a une méchante fourchette de prix, de 29 000 à 47 000 $ ce qui est une pente abrupte, on peut le dire, là, pour un petit véhicule qui a davantage l'air d'une familiale que d'un VUS en version électrique. Moins l'aide à l'achat là, du gouvernement, ça coûte environ 36 000 $ parce que ça, on dit souvent 13 000 $ mais ça, en fond, c'est 11 000 quelque chose plus taxes, parce que ça vient,
ouais, ouais,
ça
ben
vient
en fait,
après
c'est
taxes.
Le prix plus les taxes, le transport, la préparation, moins la subvention.
Exactement. Ouais. Et vu le prix, ben, je me demandais, parce que c'est comparable un peu à une Chevrolet Bolt, hein, et on peut se demander si c'est une bonne affaire pour un véhicule. Bon, qui a peut-être 400 km d'autonomie, mais qui n'a que deux roues motrices, en fin de compte. C'est pas un VUS.
C'est pas un quatre roues motrices, effectivement.
Dans le sens où on n'a pas les quatre roues motrices. Bon, bref, on a ça. Et aussi, chez Kia, on le sait, il y a le Soul EV qui est dans la catégorie, une catégorie à peu près similaire, là,
oui.
C'est
le même groupe électrogène, là. Donc,
exactement.
On bouge pas mal avec les mêmes choses.
Un peu plus petit, mais 2000 $ moins cher aussi, ouais, que le Niro EV. Donc, il y a de quoi comparer, en tout cas prendre des notes et voir qu'est-ce qui est plus approprié. La grosse différence entre les deux modèles est que le Niro est un peu plus logeable à l'arrière.
Oui.
Le volume disponible pour les passagers est à peu près le même, mais son coffre environ, je veux dire 10%, écoute, on calcule en litres, là, ça vous dira peut-être pas grand-chose, mais 5 à 6 litres de plus d'espace dans le coffre, et si on rabat les sièges, c'est un petit peu plus apparent aussi. Si vous voulez comparer le Niro EV avec un autre modèle coréen, le Kona électrique de Hyundai, qui est aussi très populaire dans ce créneau-là.
Oui, qui travaille aussi avec le même groupe électrogène.
Exactement.
On est tous à la même place.
La seule grosse différence, c'est le Kona a un petit peu plus d'autonomie.
415 versus quoi, 385, je pense qu'on annonce. Là.
Ça reste évidemment sur la consommation d'essence, c'est un peu théorique, ça varie selon,
oui,
l'utilisation. Mais le Kona est, à mon avis, en tout cas, un peu moins confortable. Il est un petit peu plus étroit aussi quand on regarde la fiche technique, donc c'est pas nécessairement aussi spacieux pour les occupants à l'avant. Cela dit, les deux ont le même, comme tu disais, le même groupe électrique, donc la même puissance de 201 chevaux. Donc, bref, on se pose la question, où se situe le Niro EV dans la liste des véhicules électriques déjà en vente? Je pense que c'est un des bons choix qui est possible de faire. On peut justifier son prix par la longue liste de caractéristiques embarquées de série.
Oui.
Le véhicule propose des services connectés aussi via son interface UVO, là, qui est le système d'infodivertissement.
Qui va très bien d'ailleurs, qui est un des systèmes assez convivial du marché. Là.
Qui est d'ailleurs extrêmement joli. Encore cette semaine, j'y revenais, puis ils ont vraiment amélioré l'interface.
Oh, oui.
C'est très tactile, évidemment, mais
dirais,
c'est,
là,
c'est moderne.
Qu'avec le système de Stellantis, là,
le U-Connect,
je pense que c'est les deux systèmes, en tout cas, moi, que je trouve les plus... C'est logique. C'est ça qui est intéressant.
Ouais, ça va bien.
Là où tu es habitué de voir des boutons, il y a des boutons. C'est un écran tactile qui fonctionne bien. Puis il y a toujours un plan B rapide si tu te retrouves pas sur le plan A. Là. Alors qu'il y a beaucoup de systèmes que t'as pas de plan B. Il faut que tu ailles naviguer dans les sous-menus. Puis à un moment donné, tu te tannes.
Il y a un petit clin d'œil aussi parce que dans l'interface, quand on va sur la radio satellite, on choisit le poste et c'est des petites lampes comme les amplis à lampes des années 70.
Oui, ça c'est nouveau, ils ont fait ça cette année.
Puis c'est un petit clin d'œil intéressant.
Transistors, les vieux transistors.
Exactement. bon, côté plus concret, on a aussi droit à un régulateur de vitesse adaptatif et à une série d'aides électroniques à la conduite qui sont assez complètes. Là, on peut les désactiver si c'est agaçant, mais il y a quand même pas mal tout ce qu'on souhaite. Surtout, siège chauffeur et climatisé, qui est toujours un plus à l'avant. Et concrètement, la Sono, là, on dit, bon, elle est très jolie, mais est aussi très bonne. Elle fait une qualité sonore assez étonnante. Pour un véhicule qui, en principe, en tout cas en version électrique, est un véhicule d'entrée de gamme. Et parlant d'entrée de gamme, d'ailleurs, c'est la version recommandée du modèle électrique. Le Niro EV est offert en deux versions. La version EX, offre tout ce qu'on peut. Évidemment, c'est la même mécanique dans les deux cas. Il manque juste quelques pouces d'écran de plus ou de moins. Le modèle SX Tourist, qui est le plus cher, coûte 10 000 $ de plus. il ne vous en donnera pas assez pour ce montant-là, là, si on veut.
Non, je trouve, s'il avait demandé 3 000, 4 000 de plus, je me serais dit, ah, faites le saut au SX, mais honnêtement, le EX a tout ce que vous avez besoin.
Exactement.
Et ce que j'ai surtout aimé, moi, c'est un, le confort de conduite et le fait qu'on est dans une voiture. On n'a pas l'impression d'être dans un VUS.
Ouais, ça, c'est très vrai.
Moi, j'apprécie ça. Je ne suis pas a priori un amateur de VUS et j'ai trouvé la position de conduite naturelle pour ce véhicule-là, pour ce que moi j'aime conduire.
Ouais, je dirais un peu plus confortable que le Soul, si on veut comparer.
Oui.
Un peu plus raffiné aussi. Bon, son accélération, évidemment, n'est pas décapante, là. On n'est pas dans les véhicules.
Non, comme... mais ça a du punch.
Non, ben, c'est 0-100 en 7 secondes. Oh, ça fait la, on dit que ça fait la job, qui est vraiment une espèce de slogan.
Je pense pas que personne va acheter un Niro pour faire de la course, là.
Non, exactement. Tout à fait. Mais par contre, on peut s'amuser, on peut conduire, en ajustant la résistance du groupe électrique, là, sans avoir à utiliser la pédale de frein pour ralentir et s'immobiliser.
Je l'ai faite et ça fonctionne bien.
Exactement. Il y a 3 niveaux d'adaptation. Ouais. Les 64 kWh de la batterie sont suffisants pour vous mener à destination au centre Aka, peu importe. Comme tu le disais tout à l'heure, je pense que c'est 393 ou 383 d'autonomie en principe. Sur le cadran du véhicule que j'ai essayé, j'étais à 400 km pile. Ouais. Donc, ça s'ajuste selon votre comportement de routier. Et que vous fassiez, écoute, de la route, de l'autoroute, du boulevard, de la ruelle, n'importe quoi.
En fait, même en ville, vous risquez d'en faire un peu plus à cause du régénératif au niveau des freins.
Exactement.
Moi, j'ai réussi à faire presque 400 quand j'ai fait plus de villes. Puis l'hiver, j'ai fait 320. Là. Pour vous donner une idée, là, je me suis situé, je l'ai eu à deux saisons différentes. Mais dans la catégorie des véhicules électriques familiales intéressants, il faut penser au Niro. C'est un modèle bien, bien fun.
Oui, absolument. C'est un bon choix. C'est pas le meilleur. Personnellement, je pense que le Chevrolet Bolt 2022 va...
Moi, j'ai hâte d'essayer le EUV.
Ça, c'est encore plus apparent, vu le prix.
Prix, là, j'ai hâte de voir ça, mais ça va être intéressant. Moi, je suis allé dans une autre direction. Modèle qu'on a rafraîchi, en fait, modèle qui était ici en 2019, la Genesis G70, qui est la berline d'entrée de gamme de luxe. Bon, on cache pas à personne, là, ce qu'on vise, c'est les Audi A4, les BMW Série 3, les Mercedes Classe C. Qui sont le trio dominant là, dans ce segment-là. Donc, quand tu arrives avec un modèle, il faut que tu sois prêt parce que c'est un gros morceau à avaler. Cela dit, la G70 fait extrêmement bien le travail. Mm-hmm. Que vous preniez le 4 cylindres de base, parce que les gens disent « Ah, oh, le 4 cylindres de base ». 4 cylindres de base fait quand même 252 chevaux. Il fait 260 livres-pieds de couple. Donc, il va faire le travail très bien de 4 cylindres. Le modèle, en termes de format, est un peu plus gros qu'une série 3, qu'une classe C. C'est un modèle
assez... Mais il a l'air gros. Les lignes le rendent très
imposant. Par contre, en arrière, il n'y a pas vraiment beaucoup plus de place. Ça, c'est peut-être là une des petites choses que j'ai trouvées sur le véhicule. Il pourrait avoir un petit peu plus de place derrière. Moi, j'ai eu à l'essai le 6 cylindres de 3.3 turbo qui fait 365 chevaux et 376 livres-pieds de couple.
C'est quand même beaucoup.
4 roues motrices, boîte à 8 rapports. La puissance est excellente à tous les chapitres. Vous avez le turbo amène une linéarité au niveau de la puissance. C'est très progressif, très silencieux, extrêmement bien fini. Et comme tous les produits coréens, il y a pas beaucoup d'options. Donc, vous avez pas des pages et des pages d'options et vous devez pas ajouter 12, 15, 18, 20 000 piastres à la voiture pour l'avoir équipée comme vous le voulez. Nous, on avait un modèle qui était autour de 57, 58, qui se compare, je dirais, en termes d'équipement, faut en mettre 7, 8 000 de plus chez un concurrent allemand pour avoir le même équipement. En termes de prix, vous allez dire, ah, ben, je peux avoir un allemand à ce prix-là. Oui, mais regarde l'équipement qu'ils vont te donner pour le même prix.
Chose.
Alors, on a choisi depuis quelques années chez les Coréens non plus d'offrir à moins ou à moindre prix, mais plutôt d'offrir au même prix, mais mieux équipé.
D'en donner plus.
En tout cas, moi, je trouve que c'est une façon de fonctionner qui marche très bien. On a changé un certain nombre de choses pour le 2022. La ligne, entre autres, qui se rapproche, je le disais en introduction de l'émission, qui se rapproche des lignes de la G80, du GV80, donc aile un peu plus élargie, calandre un peu plus imposante. On a mieux sculpté le profil de la voiture. À l'intérieur, nouvel écran écran de 10.25 pouces qui remplace l'écran de 8 pouces. Tu sais, 8 pouces, c'est rendu un peu vieux, même si le modèle était un 2019.
Écoute, c'était grand avant, c'est rendu
petit. C'est rendu petit, puis là, c'est ça, effectivement, on part à 10 pouces comme la norme. Là. Si t'es, c'est 10 à 12 pouces et plus.
C'est vrai.
Donc, et on a recentré ça vers le conducteur, donc très facile. Et c'est un menu, c'est un écran tactile, donc c'est un menu qui est bien proportionné. Il y a du verre acoustique au niveau des pare-brises, au niveau des verres des portes. Donc, on a un intérieur extrêmement silencieux. C'est un modèle qui, à mon avis, mérite que vous preniez le temps d'en faire l'essai. Il n'a pas la réputation des modèles allemands, mais il a certainement le plaisir de conduire, une meilleure garantie, et jusqu'à date, parce que bon, ça date uniquement de 2019, la garantie est très bonne sur le véhicule.
Il va faire tourner les têtes aussi.
Oui, c'est un beau véhicule. Alors voilà, ça termine notre émission pour cette semaine. Merci d'avoir été là, tout le monde. Merci,
ben
Alain,
ouais, ben
d'avoir
oui.
été là. La semaine prochaine, on va parler de produits Sonata. Et on va avoir un invité du monde automobile. Je suis en train de confirmer qui. Je vous donne pas la nouvelle tout de suite. Soyez prudents. On se revoit la semaine prochaine. Bye bye.
Ça tient la route. Un balado C23 produit par le 98.5. Abonnez-vous à Ça tient la route sur Apple Balado, Spotify ou Google.
C'est 23.
Recule un peu, recule, recule.
Stationner en parallèle, ça devrait être simple.
OK, crampe en masse, crampe, crampe, crampe!
Faire et suivre une réclamation rapidement sur l'appli Bel Air Direct, ça, c'est simple.
OK, des crampes.
Bel Air Direct, l'assurance simplifiée.